Comment consommer de façon plus responsable? Le challenge est de taille. Écoutez le podcast On The Way. Inspirez-vous et passez à l'action. Entrepreneurs, acteurs du changement ou encore chercheurs, découvrez ceux qui agissent pour une consommation plus durable. On The Way, un podcast proposé par BNP Paribas Personal Finance, disponible sur toutes les plateformes.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter Programme B. Comme moi, vous avez sûrement déjà passé un week-end ou des vacances dans un Airbnb et peut-être même découvert une pépite où vous vous sentiez comme à la maison. C'est d'ailleurs un peu le cas pour moi en ce moment puisque j'ai la chance d'être aux États-Unis pour préparer un reportage que vous entendrez bientôt sur Programme B. Et si justement, votre logement devenait la prochaine pépite sur Airbnb? Pour ça, pas besoin de vivre dans un château, ni de traverser l'Atlantique. En mettant votre logement sur Airbnb, le sponsor de cet épisode, et en devenant hôte pour des voyageurs d'un soir ou des touristes en jet lag, vous pouvez très facilement vous faire un peu d'argent et arrondir vos fins de mois, et devenir à votre tour un touriste en jet lag à l'autre bout du monde. En 2-3 clics, découvrez ce que votre logement pourrait vous rapporter sur airbnb.fr/hôte, ça s'écrit évidemment H-O-T-E.
Hello, je suis Mélanie Wanga. Elle s'appelle Caster Semenya et elle a déjà révolutionné le domaine de l'athlétisme. Cette Sud-Africaine de 28 ans est bien sûr double championne olympique et triple championne du monde du 800 mètres, mais surtout, elle remet aujourd'hui en cause des siècles de contrôle systématique du corps des femmes dans le sport. En 2018, la Fédération internationale d'athlétisme, IAAF, a pris une décision visant les femmes dites hyper-androgènes, c'est-à-dire produisant un niveau trop élevé d'hormones sexuelles mâles par rapport aux autres femmes. Elles doivent désormais prendre des médicaments pour faire baisser ce taux, sous peine de ne pas pouvoir participer aux compétitions internationales. L'IAAF justifie sa décision sur une étude menée pendant 2 ans et dont les résultats ne sont pas accessibles au public. Ce nouveau règlement, acté en novembre dernier, concerne uniquement les athlètes féminines qui courent entre 400 mètres et 1 mile, la catégorie de Caster Semenya. L'athlète aurait de quoi se sentir particulièrement visée. Elle a donc fait le choix d'attaquer le règlement du tribunal arbitral du sport en novembre 2018 avec le soutien de la Fédération sud-africaine. La bataille judiciaire débute le 18 février dernier et est lourde de sens pour le monde de l'athlétisme. Alors, le corps des femmes comme enjeu politique, c'est pas nouveau. Mais le conflit apparaît ici de manière particulièrement violente dans un domaine réputé comme égalitaire et impartial, le sport. Les tests de féminité, quant à eux, sont ici mis en lumière comme une pratique ancienne qui a lieu dès lors que les femmes ont été autorisées à avoir une activité sportive. Examens musculaires, respiratoires, mais aussi gynécologiques, ce pan dérangeant de l'histoire du sport, voué à trier les vraies femmes des fausses, révèle une tradition de misogynie et de contrôle des corps. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour tenter de comprendre, j'ai contacté Anaïs Beauhuon, professeure des universités en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'Université de Paris-Sud et autrice des tests de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X, un ouvrage paru en 2012. Et je lui ai demandé tout d'abord de nous expliquer en quoi l'histoire de Caster Semenya est significative pour les fédérations d'athlètes.
Je crois qu'il faut commencer par dire que c'est un scandale. Et à mon avis, c'est un scandale qui va marquer l'histoire du sport du XXIe siècle. Puisque Caster Semenya est accusé de produire plus de testostérone que la moyenne autorisée de manière médicale, mais plus encore arbitraire. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui dans le monde du sport qui produit plus de testostérone qu'une moyenne, on pourra y revenir parce que du coup cette moyenne pose question, est accusée d'avoir ce qu'on appelle dans le milieu du sport un avantage physique. Et donc on demande à Caster Semenya, plus précisément la Fédération internationale d'athlétisme, de réguler ses taux hormonaux en prenant des médicaments pour ne plus dépasser cette moyenne autorisée. Pour la troisième fois dans l'histoire du sport, puisqu'on pourrait y revenir également, il y a eu certaines sportives qui ont refusé ces règlements. Après du Tichand, Caster Semenya porte plainte, enfin saisit le tribunal arbitral du sport pour discrimination avec ses avocats. Elle dit que ce n'est pas juste de lui demander de réguler finalement ses performances sportives. Les arguments de la Fédération internationale de l'athlétisme sont des arguments d'éthique et de respect, si vous voulez. Ils partent du principe que tout le monde est égal dans les starting blocks. Tout le monde concourt à armes égales. Or, moi, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que c'est une utopie, c'est un vœu illusoire. Personne n'est égal dans les starting blocks. Il y a des déterminants sociologiques de la performance, des déterminants sont très très nombreux pour essayer d'expliquer pourquoi certains excellent plus que d'autres. Et la question qui se pose, c'est pourquoi vouloir réguler un avantage naturel, puisque j'ai oublié de le dire et c'est fondamental, les taux hormonaux que produit Caster Semenya sont endogènes. Pourquoi vouloir absolument réguler ses performances alors qu'il n'est pas absolument pas question de dopage?
Et de manière tout à fait arbitraire en plus.
Totalement.
Ils ont fixé une limite et ils ont dit...
Alors, c'est totalement arbitraire parce que justement, on est en présence de moyennes et on sait très bien, enfin moi en tant qu'enseignante, je sais très bien que c'est une moyenne. Donc oui, il va y avoir des étudiants qui vont dépasser la moyenne et d'autres qui vont être en dessous de la moyenne. Et donc, ils ont arrêté en 2011 pour la première fois la Fédération internationale d'athlétisme, la Fédération internationale de foot, puis plus tard, le CIO s'est aligné sur les règlements sur le Comité international olympique.
D'accord.
Donc au début, ça concernait uniquement l'athlétisme, puis le foot. Et après, à partir du moment où c'est le Comité international olympique, toutes les autres disciplines olympiques, ils ont décidé en 2011, ils ont édité un règlement sur l'hyperandrogénisme féminin, ce dont on parle. Et ils ont décidé de demander aux athlètes qui produiraient dynamomol par litre de sang de testostérone de soit... accepter de prendre des médicaments justement pour diminuer leur taux, soit aller concourir chez les hommes. Or, il y a une dimension fondamentale qu'on ne dit pas assez, c'est que ce soit Caster Semenya ou Duty Chand, on pourra y revenir, Caster Semenya, elle court en 1 minute 55 secondes et 45 centièmes en 2009 quand elle gagne les championnats du monde d'athlétisme de Berlin et quand la polémique naît. Or, cette performance ne lui permettrait même pas d'être qualifiée au championnat de France de 800 mètres masculin.
Oui, donc ouais. Très clairement, pour elle, ça n'aurait aucun intérêt d'aller courir chez les hommes.
Elle aurait qu'une chance, en fait. Donc du coup, ce règlement est inadmissible et complètement discriminant.
Juste une petite question qui est peut-être accessoire, mais est-ce qu'il y a des tests de ce genre chez les hommes pour limiter la testostérone?
C'est une,
si on parle d'égalité les starting blocks.
C'est une très bonne question. Il y a ce qu'on appelle les passeports biologiques, mais c'est avant tout pour lutter contre le dopage. Donc les athlètes, que ce soit les femmes et les hommes, sont très suivis avec ce passeport biologique. Mais jamais un homme dans l'histoire du sport ne s'est vu reprocher des taux hormonaux naturels, j'entends, hein, parce qu'on n'est pas dans le cadre du dopage, trop élevés. Donc non, absolument pas. Et ça renvoie au fait que la question qu'il faudrait se poser, est-ce que du coup, la testostérone ne serait pas l'apanage exclusif des hommes, en fait? Seuls les hommes auraient-ils le droit de produire de la testostérone alors qu'on sait qu'on est en présence de variations quantitatives? Et si, par exemple, demain, je me mets ou vous vous mettez à faire de la musculation à très haut niveau, 35 heures par semaine, etc., vous allez pouvoir avoir des variations hormonales générées par votre pratique physique. Et donc, c'est vraiment important de noter que ce sont des variations quantitatives. Il y a des hommes qui produisent moins de testostérone que la moyenne des hommes. Et il y a des femmes qui produisent plus de testostérone que cette moyenne arrêtée de manière à nouveau, je le répète, arbitraire.
Alors, quand même, les tests de féminité, ça existe depuis quelque temps dans le sport. J'aimerais bien que vous nous éclairiez un petit peu sur d'où ça vient, à quoi ils sont censés servir, et peut-être nous en expliquer un peu la logique, je mets des guillemets, hein, ou du moins le fonctionnement.
Du coup, moi, je suis socio-historienne et j'ai fait ma thèse, mon doctorat, pas sur les tests de féminité, mais sur les discours médicaux et la difficile accession des femmes aux activités physiques et sportives de 1880 à 1922, au moment où elles mettent leur corps en mouvement. Et j'ai découvert que la réglementation des activités physiques et sportives féminines relevait d'injonctions paradoxales qu'on va retrouver finalement aujourd'hui dès la fin du 19e siècle. On s'est dit, on va mettre en mouvement les corps des femmes pour lutter contre, à l'époque, la tuberculose, la syphilis, la sédentarité, l'obésité, l'alcoolisme, etc. Mais plus encore, alors c'est un peu complexe, mais je vais essayer de le rendre simple, il y avait le courant lamarckien qui consistait à penser que la transmission, si vous voulez, des caractères acquis existait, et donc il fallait renforcer physiquement les femmes, et ça serait un gain pour les générations futures. Je sais pas
d'accord,
si je suis...
préparer les générations futures en faisant de l'exercice.
C'est ça, en pensant que si on mettait leur corps en mouvement, elles allaient transmettre tout ce qu'elles avaient acquis de par leur
bon gène.
Voilà, ouais, exactement. D'accord. Et donc ça, c'est aussi un courant qui a permis de permettre un petit peu l'accès des femmes à certaines disciplines sportives. Mais le problème, c'est que très vite, les hommes ont eu peur de la différenciation sexuelle, enfin que la différenciation sexuelle soit
remise... Que les femmes deviennent des hommes.
Exactement, voilà. Et donc, des choses que j'ai pu lire, des viragos, des lesbiennes, ou alors vraiment la crainte majeure de l'époque, c'est des femmes stériles, à force de pratiquer trop de sports, et surtout des sports de tradition masculine très ciblés, des sports qui étaient accusés de pouvoir mettre en danger leurs organes reproducteurs. Il y a tout un débat, fin 19e, qui amuse beaucoup mes étudiants, au sujet des femmes et de leur accès à la bicyclette. Elles étaient par exemple accusées de pouvoir s'adonner à des pratiques masturbatoires avec le frottement des pédales. Et donc, on avait peur du coup qu'elles se désintéressent, que leur désir pour les hommes soit amoindri, et plus encore, qu'elles puissent subvenir...
qu'elles n'aient plus besoin des hommes.
Voilà,
c'est scandale.
Ça, exactement. Et plus encore que la bicyclette les rende stériles, en fait. Et du coup, ça a été très difficile. Je perds mon argumentaire.
Mais l'accès, ouais.
Il y a une vraie injonction paradoxale qui consiste à dire faites du sport, mais ne devenez pas trop masculine, trop virile, surtout ne vous désintéressez pas du désir masculin et pensez à vous reproduire. C'est vraiment très clair dans tous les discours médicaux que j'ai pu lire à la fin du 19e siècle.
Et du coup, les tests de féminité sont arrivés à ce moment-là ?
Voilà. En fait... il est important de noter que le sport transforme, bouleverse les morphologies. À nouveau, si vous vous mettez à faire beaucoup de rugby pendant des années, bah, votre corps va changer, va être transformé par la pratique. Et donc, on a vu arriver dans les années 30 des femmes qui sortaient des critères normatifs de la féminité, et très vite, on leur a reproché d'être trop puissantes, trop musculeuses, trop poilues. J'ai même trouvé dans des archives en 1948 un dirigeant sportif qui reproche à une femme d'avoir des trop grands pieds. Et donc, il en conclut le fait que ça ne peut pas être, je cite, entre guillemets, une vraie femme. Et le soupçon s'est très vite porté sur ces femmes en pensant au pire que c'était des hommes déguisés qui concouraient chez les femmes, ou au mieux, mais je dis ça très ironiquement, des femmes, et je cite à nouveau, non authentiques. Et donc, dans l'objectif vraiment avoué des fédérations de respecter cette bicatégorisation sexuée et d'empêcher les hommes de concourir chez les femmes, ils ont mis en place, pour la première fois en 1966, au championnat d'Europe de Budapest d'athlétisme, ce qu'on appelle des tests de féminité, mais le vrai terme qui a été utilisé à l'époque, ce sont des, et ça a du sens, des contrôles de sexe.
Le mot contrôle s'applique bien pour le coup à ce que c'est, quoi.
La première forme de ces contrôles sont des tests gynécologiques et morphologiques. C'est-à-dire que toutes les athlètes devaient se présenter devant 3 médecins et montrer clairement leurs organes génitaux, on leur imposait vraiment des contrôles gynécologiques pour être sûr que leurs organes génitaux sont bien des organes génitaux dits féminins. Et on ne se contentait pas de ça, il leur faisait passer des tests de force. Donc elles devaient souffler dans une sorte de spiromètre afin d'évaluer leur capacité respiratoire. Elles devaient presser dans une poire, un dynamomètre, afin d'évaluer leur puissance musculaire, qui devait rester en deçà de celle estimée masculine. Donc c'est vraiment des tests morphologiques et gynécologiques pour définir ce qu'on attend, entre guillemets, d'une vraie femme autorisée
voilà.
à concourir.
Et la définition pure, du coup, c'est d'être en dessous d'un homme en
Exactement.
Termes de force. Et de...
Exactement. Ouais. inférieure physiologiquement. On partait du principe qu'une femme doit être, ce qui peut expliquer aujourd'hui la situation actuelle. En fait, ça renvoie à mes premières recherches. Très vite, j'ai dû travailler sur quelque chose qui est fascinant, mais en même temps qui est ahurissant, c'est et ça renvoie à votre question, qu'est-ce qu'une, et je mets des guillemets, vraie femme autorisée à concourir? Et en fait, ce dont je m'aperçois, c'est plus les instances dirigeantes sportives, plus les instances dirigeantes sportives médicales cherchent à définir ce que doit être une vraie femme autorisée à concourir, moins ils trouvent. Parce que au début, donc on vient de le voir, ils ont essayé de prouver qu'une vraie femme était une vraie femme parce qu'elle avait des organes génitaux visuels dits féminins et une force et une puissance musculaire, une capacité respiratoire en deçà de celle estimée masculine. Et du coup, ça me permet de dire que il y a eu beaucoup de plaintes. Les sportives ont trouvé ces tests trop humiliants.
Dégradants.
Dégradants. Et donc, ils se sont posé la question de savoir, dans les années 68, comment trouver une autre définition de ce que doit être la vraie femme. Et ils ont mis en place le test de corpuscule de Barre. Ils sont partis du principe très simple qu'une vraie femme était chromosomiquement XX et qu'un vrai homme était chromosomiquement XY.
Va poser des problèmes peut-être pour plus tard, pour les personnes transgenres par exemple.
Par exemple, ouais. Et notamment, surtout pour les personnes intersexes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils prélevaient de la salive avec un coton-tige. Ensuite, ils procédaient à un caryotype pour la première fois aux Jeux Olympiques de Mexico en 68 et aux Jeux de Grenoble en 68, afin de s'assurer que toutes les femmes qui concouraient étaient bien des femmes chromosomiquement XX. Et le monde du sport a fait la découverte un peu tardive, hein, quand même, de ce qu'on appelle l'intersexuation. Et donc, je vais prendre le temps de définir ce qu'est l'intersexuation. Je me permets d'emprunter cette définition au collectif intersexe et allié, qui fait un travail remarquable. Et donc, l'intersexuation, ce sont des personnes intersexes qui sont nées avec des caractères sexuels, génitaux, gonadiques, donc testicules et ovaires, ou chromosomiques, qui ne correspondent pas aux définitions binaires type des corps masculins ou féminins. Et si vous voulez, ils disent que intersexe est un terme coupole qui englobe les expériences d'être né avec un corps ne correspondant pas à ce que la société attribue au masculin et au féminin. Et le monde du sport a découvert ça. Et donc, à travers ces tests, ils se sont aperçus que certaines femmes pouvaient être XXY, XY, et qu'il y avait une infinité de possibilités de différenciation chromosomique.
Ils ont dû être très surpris, effectivement.
Effectivement, et ça a créé énormément de choses dont on parle très peu. On a pu dire à des athlètes, très jeunes athlètes, qu'elles sortaient du champ des femmes et qu'elles n'étaient plus, justement, je reprends ce terme très fort qui ressort quand on travaille sur ces questions, qu'elles n'étaient plus des vraies femmes parce qu'elles avaient, si vous voulez, et ça à nouveau je cite, un chromosome de trop. Et donc elles ont été exclues des compétitions. On les a empêchées de concourir.
Elles n'ont pas pu concourir tout court.
Non. Et du coup, il y a eu énormément de drames très peu connus dans l'histoire du sport chez ces athlètes qui ont soit arrêté la compétition, soit pour certaines fait des tentatives de suicide, puisque je vous laisse imaginer ce à quoi ça renvoie d'apprendre, après des années d'abnégation et de sport de haut niveau, qu'on vous fasse un test et qu'on ne comprenne pas l'inanité du test et qu'on vous dise non, vous n'êtes pas une vraie femme, vous n'êtes pas autorisée à concourir. Donc il y a eu énormément de drames dans l'histoire du sport, je passe vite. Ils ont d'abord, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils ont d'abord essayé de chercher le deuxième X pour définir ce qu'était une vraie femme. Ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas. Et au lieu de s'arrêter, en 90, ils ont décidé d'aller chercher le Y. Pour dire, voilà, une vraie femme, ce n'est pas un deuxième X, si vous voulez, mais ce qui n'est pas une femme, c'est quelqu'un qui a un Y.
D'accord.
Or, c'est absolument...
En creux, ils ont essayé.
Exactement. Et en fait, c'est ahurissant parce qu'ils savaient dès le départ que certaines femmes pouvaient être XXY ou XY. Et donc, ils ont arrêté les tests chromosomiques en 2000, pour la première fois au JO de Sydney. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ils se réservent le droit de faire passer des contrôles de genre, parce qu'ils appellent ça, à l'époque, dans les années 90-2000, des contrôles de genre, uniquement en cas de, je n'ai pas peur de le dire, de soupçons visuels. C'est-à-dire que c'est ce qui est arrivé à Caster Semenya. Si vous avez une femme qui sort des critères normatifs de la féminité, qui
trop
n'est
musclée,
pas mince, imberbe, gracieuse, fine, élégante, et j'ai envie de vous dire, dans ses gestes, mais aussi dans ses tenues, on a beaucoup reproché en 2009 à Caster Semenya de porter un bermuda, en gros un cycliste, au lieu d'une culotte, contrairement à ses autres concurrentes. Et ça a quand même été des arguments qui ont été repris pour justifier le fait qu'elle n'était pas une vraie femme. Donc c'est vraiment aller très très loin. Et donc, à la limite, avant, j'ai envie de dire, c'était peut-être, je me risque cette comparaison, mais peut-être plus juste, parce que toutes les femmes étaient obligés de passer ces tests de féminité chromosomique. Or, aujourd'hui, c'est uniquement si une femme était jugée trop forte, trop douée, trop performante.
Aujourd'hui, on la cible.
Ou alors, j'ai l'impression que pour Caster Semenya, c'est plus le cas, qu'elle sort des critères normatifs d'une féminité que d'ailleurs je dis occidentale. On pourra y revenir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on teste ? Ce ne sont plus les chromosomes, mais le taux de testostérone.
D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours ces tests gynécologiques que vous avez évoqués un peu plus tôt ? Ça existe encore ?
Alors,
sous quelle forme ?
C'est une très bonne question. Normalement, non. C'est fini. D'ailleurs, ça a vraiment créé beaucoup de scandales dans les archives, dans tout ce que j'ai pu lire. Mais j'ai rencontré au cours de mes enquêtes, championne du monde de ski dans les années 90. Je fais exprès de rester évasive parce que elle m'a demandé de respecter l'anonymat. Qui m'a dit qu'en 80, dans les années 90, elle avait passer ces tests gynécologiques. Donc, ce sont potentiellement des pratiques qui continuent à exister dans le milieu du sport pour savoir et essayer d'évaluer ce qu'est une vraie femme.
D'accord. Ok. Vous pensez que cette affaire, du coup, Caster Semenya, si elle aboutit, est-ce qu'elle a des chances de changer quelque chose ? Est-ce qu'elle peut marquer peut-être un précédent, en fait, dans le monde du sport et changer en fait ces règles de test de féminité.
Alors tout à fait. Moi, je voudrais dire que donc ça fait très longtemps que je travaille sur ces questions et quand j'ai appris que Caster Semenya saisissait le tribunal arbitral du sport, parce qu'il faut quand même pas oublier que ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on la poursuit, qu'on l'accuse de ne pas être une vraie femme et qu'on l'empêche d'exceller et de concourir. Et du coup, c'est déjà pour moi un signal très fort qu'elle saisisse le tribunal arbitral du sport et qu'elle dise, comme en son temps Maria José Patino, une athlète espagnole qui avait elle aussi, s'était elle aussi battue pour être réhabilitée en tant que vraie femme, ou alors plus récemment Duty Chand en 2015. C'est un signal très fort et je pense et j'espère que Caster Semenya va gagner comme Duty Chand a gagné en 2015. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment voulez-vous que le tribunal arbitral du sport décide de réguler un avantage naturel plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que s'il décide de réguler les taux hormonaux chez les femmes, alors il va falloir également, puisqu'on le sait qu'une grande taille peut être un avantage physique en soit en hauteur ou en basket, réguler, faire des compétitions, des catégories de taille, ou alors je pourrais multiplier à l'infini ces avantages, ces soi-disant avantages physiques qui sont, à mon avis, constitutifs du sport de haut niveau et que l'on célèbre chez les hommes.
Malgré ce qu'on nous apprend à l'école, nous ne sommes pas tous égaux dans les starting blocks et l'important n'est pas de participer, surtout dans le sport de haut niveau. Certains et certaines d'entre nous partent avec des avantages gynés. Après avoir tenu les femmes à l'écart des compétitions sportives pendant des décennies, les instances régulent, aujourd'hui encore, leur participation à travers des tests controversés et des moyennes hormonales fixées arbitrairement. Est-ce que Caster Semenya va faire bouger les lignes ? Quoi qu'il arrive, on sera fixé avant l'échéance des championnats du monde de Doha, au Qatar, qui commence le 29 septembre prochain. Merci à Anaïs Bohuon pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Comment consommer de façon plus responsable ? Le challenge est de taille. Écoutez le podcast On The Way. Inspirez-vous et passez à l'action. Entrepreneurs, acteurs du changement ou encore chercheurs, découvrez ceux qui agissent pour une consommation plus durable. On The Way, un podcast proposé par BNP Paribas Personal Finance, disponible sur toutes les plateformes.